Moi, je suis mal au cachet oriental. J'ai réussi totalement cette
idée. Moi, c'est pour aussi au cachet-langage. Quand on combinera les deux, je suis de maîtrise qui va trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à Parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive de Radio Capi. Aujourd'hui, nous débutons la série d'émissions sur le fonctionnement des institutions provinciales en RDC. Après tirage au sort, la province du Katanga est à l'honneur ce mercredi. Le Katanga est situé au sud de la RDC, sud-est, avec plus de 490 000 km². Elle est la province la plus vaste du pays après la province orientale. Actuellement, elle compte près de 3 millions d'habitants et elle est divisée en 4 districts, compte 22 territoires, toutes les îles de Lubumbashi, de Kolwezi et de Likasi. Le Katanga est la province est une province à vocation minière. Elle se frontière avec la Zambie. Cela fait plus de 4 ans que M. Katumbi, Moïse Katumbi, gouverne la province et que M. Kumbwa Kumwanza préside l'Assemblée provinciale. Quel bilan faites-vous du fonctionnement de vos institutions provinciales une année avant la fin de la législature? M. Christian Mwando est notre invité, il est ministre provincial en charge des finances et de l'économie. Kikim Koutou, Thierry Lamézi, sous la supervision de Nicole Ndaka, réalise cette émission. Guy Manzangou est à la mise en onde et Marchand Kanouba à la présentation. Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Katanga.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Katanga, premier rendez-vous avec toute l'équipe PA ce mercredi 11 mai de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
La réalisation me fait signe que notre invité est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Christian Mwando.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer près d'une heure quart d'échange avec les auditeurs, spécifiquement les auditeurs habitant la province du Katanga. Et ce sera sur le fonctionnement des institutions provinciales et surtout l'impact dans la vie des habitants et dans le développement de cette province. Nous allons commencer d'abord par écouter les premières séries d'auditeurs qui vont donner leur avis. Et puis nous allons vous accorder la parole pour que nous puissions, vous puissiez répondre s'il y a des préoccupations, mais aussi donner un avis, une réaction face à ce que vont dire les auditeurs. En ligne, nous avons déjà Lumbala qui nous appelle de Likasi, mais je rappelle les contacts. Si vous voulez participer à cette émission consacrée uniquement à la province du Katanga, tout d'abord, il faut que vous soyez habitant de la province du Katanga, et puis vous composez le 081 690 63 15 081 690 63 15, ou nous écrire à travers l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nous commençons avec notre premier auditeur, Lumbala, bonjour.
Bonjour madame.
Comme je l'ai dit, vous appelez de Likasi, et quel bilan faites-vous du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Bon, merci madame pour nous avoir associés à ce débat. N'étant pas omniprésent sur toutes les familles de la province, je vous présenterai ici que le bilan des institutions provinciales en rapport avec nos conditions de vie dans la ville de Likasi, la deuxième ville de la province de Katanga, située à 120 km de Lubumbashi, le chef-lieu, et où habitent plus de 270 000 habitants. Primo, pour l'institution assemblée provinciale, madame, le bilan est nul. En ce sens, il y a eu, à notre avis, des études successives de contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie. Tenez, les trois députés provinciaux de notre circonscription électorale de Likasi n'ont pas accompli leur mission constitutionnelle. Ils n'ont ni élaboré et fait voter des édits, ni exercé le contrôle parlementaire auprès de nos autorités locales ici à Likasi, ni mené efficacement un plaidoyer auprès de l'exécutif provincial en vue de la résolution de nos problèmes sociaux, et cela comparativement aux compatriotes habitant la ville de Lubumbashi et ses écologistes. Donc le bilan est négatif pour l'institution assemblée provinciale. Secondo, pour l'institution gouvernement provincial, madame, le bilan est mitigé. La ville de Likasi, qui est à 120 km de Lubumbashi, a été la plus oubliée par rapport à d'autres villes de la province. Pour preuve, le débit de ce chantier est très timide. Tenons madame ici à Likasi, dans le domaine des infrastructures. Vous le savez, madame?
Oui, je vous écoute, Lumbala. Vous avez
bon,
dit que
là, dans le domaine des infrastructures, 4 avenues seulement sur une centaine ont été réhabilitées. La route Rumbashi, boulevard de l'Indépendance, avenue Lumumba et l'avenue du Congrès. Seule une école officielle, la tenue d'éducation, anciennement appelée la Cour royale, a été réhabilitée avec le concours de mining sur des entreprises minières et sur plusieurs d'autres écoles.
S'il vous plaît, Lumbala, à vous écouter, à vous entendre, c'est vrai qu'on ne peut pas faire point par point ce qui a été fait ou bien ce qui n'a pas été fait à l'ICACI, mais d'une façon globale, vous pensez que au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas été suffisant, rien du tout, vous avez dit même que c'est nul. Au niveau du gouvernement provincial, vous dites que c'est mitigé, vous avez donné quelques exemples. En tout cas, Lumbala, merci beaucoup parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui veulent intervenir. Merci beaucoup pour votre intervention à partir de l'ICACI. Nous allons cette fois-là dans la ville de Lubumbashi. Où se trouve Esseko? Bonjour. Bonjour Esseko. Là, on a des problèmes avec la ligne téléphonique d'Esseko qui se trouve à Lubumbashi. Mais nous lisons ce message de Yves. Il nous écrit à partir de toujours de Lubumbashi. Il dit ceci, le bilan, je le prends sous différentes formes. La stabilité des institutions et les relations de collaboration entre l'exécutif et les législatifs a favorisé un bon climat de travail. La province a su contourner la grande attente des 40% de retenue à la source ainsi que les irrégularités et insuffisances de rétrocession par l'imposition de certaines taxes qui en ce jour permet à la province d'avoir tant soit peu les moyens de sa politique. Il dit que le respect du contrat social par les entreprises minières, un salaire minimal a été imposé à tous les employeurs et la stabilisation du prix du maïs, du reste denrées de première consommation à Lubumbashi. Il y a eu aussi des hôpitaux qui ont été approvisionnés en médicaments, la distribution des bus dans chaque territoire pour résoudre le problème de transport. L'effectivité des 5 chantiers au Katanga n'est plus à démontrer, mais qui nécessite tout de même un coup de pouce supplémentaire pour une meilleure couverture de la province. Voici ce que pense Yves de Lubumbashi. Mais nous lisons aussi un autre message de Pierre Chabois qui nous écrit de Kolwezi. Il écrit ceci, le travail est la seule voie pour nous amener au développement, il est sacré. Malheureusement, le Congolais n'aime pas bosser, il a le goût du moindre effort. Au Katanga, les gens se réveillent à 5h du matin pour aller au champ, au bureau, à l'usine. C'est toute une culture, je ne sais pas comment nos compatriotes d'autres provinces considèrent ou apprécient la fable qui dit, la fable du laboureur et ses enfants. Le bilan des 5 ans de Moïse Katumbi est mitigé, il a fait des efforts sans moyens et que les autres autorités considèrent comme une corvée. Voilà ce que pense Pierre Chabois qui nous a écrit de Kolwezi. Nous allons prendre le dernier auditeur de cette première série, Liévin, qui est au bout du fil. Bonjour Liévin. Liévin ?
Oui, beaucoup madame.
Oui.
Je salue d'abord la radio Kati.
Oui.
Je salue également tous les auditeurs qui nous suivent au niveau des antennes de la radio Kati. Par rapport au bilan que vous venez de souligner, le bilan de Katanga, je voulais vous dire ceci. Le bilan est largement très négatif. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre des infrastructures au niveau de la base, il n'y a absolument rien.
Mais je rappelle, les uns vous appelez de Congolo, parce qu'il faudrait préciser d'où vous appelez, comme ça permet à notre invité de pouvoir se situer, de savoir si ce que vous êtes en train de dire, de savoir d'où vient l'appel. Vous pouvez poursuivre Liévin.
Oh oui, je vous appelle tout précisément dans le territoire de Congolo.
Mm-hmm.
C'est là que je suis en train d'habiter.
Oui.
Et je disais que monsieur, la madame journaliste, que ici chez nous, précisément Congolo, sur le plan social, il n'y a rien que nous venons de remarquer. Tout d'abord, je voudrais d'abord saluer les actions entreprises par son excellence monsieur le gouverneur de la province de Moïse Katumbi-Tchapo de nous avoir d'abord assisté dans le cadre de l'assistance de matériel parce que bien un jour que les élites intellectuelles du Congo auraient pu initier un projet qu'il faut assister de matériel de l'informatique de l'université pentecôtiste africaine, le monsieur avait honoré à la demande de la population du Congo, nous a envoyé du matériel en caractère de l'informatique. Mais juste là, parce qu'il n'y a pas la politique de cohésion entre les députés provinciaux de la place, juste là, ce matériel traîne encore au niveau des territoires. Mais en ce qui concerne le problème de 23, nous avons enregistré l'assistance des pupitres qui ont été distribués aux écoles primaires, quelques écoles primaires de la France. Je dois souligner encore, il y a un appui financier dans le cadre des finalistes parce que
Donc, pour vous, il n'y a eu que des actions ponctuelles pour, dans certains cas, c'est ce que vous voulez nous dire, parce que ce serait difficile de pouvoir citer, la liste vraiment ne sera pas vraiment exhaustive. Nous vous remercions, Liévin de Congolo, pour votre participation, mais entre-temps, vous avez décrié le fait que souvent, il n'y a pas un relais entre les députés provinciaux et la population. On me fait signe qu'il y a Victor de Lubumbashi, et puis nous allons accorder la parole à notre invité. Je rappelle que c'est Monsieur Christian Mwando. Il est ministre provincial en charge des finances et de l'économie. Victor, nous vous écoutons. Vous avez la parole.
Bonjour, c'est Victor. Effectivement, j'ai salué d'abord les auditeurs de Radio Kati. J'appelle Lubumbashi pour donner mon point de vue face à ce bilan du fonctionnement des institutions de Katanga. Concernant la première institution à l'Assemblée provinciale, ici, moi, je dirais franchement que les bilans de cette institution est, à mon avis, négatif, parce que l'Assemblée provinciale, madame, je vous dis, on a assisté à un peu à des actes que j'ai qualifié de déchets vécus. La parole doit aller dans un sens unique. Et il y a une intolérance de la contradiction. Rappelez-vous, c'est que les députés qui ont voulu mettre la vie contraire ont subi dans l'enceinte même du Parlement. Et donc, au niveau de l'Assemblée provinciale, je dirais que les bilans sont négatifs. Concernant maintenant le gouvernement provincial, je dois dire que c'est un gouvernement à encourager. Nous vivons au Katanga et depuis que moi je suis majeur, je n'ai pas encore vu de tels actes de la part d'un gouvernement au Congo. Donc le gouvernement provincial du Katanga, nous devons le féliciter. Beaucoup de choses sont faites, notamment sur le plan des infrastructures, surtout routières, c'est vraiment ça dépasse mon entendement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut encourager ce gouvernement-là, même si il y a aussi des actes sur lesquels le gouvernement ne se penche pas, notamment l'agriculture. On parle toujours de la prémine, mais la question n'est pas abordée de manière fondamentale. La prémine n'est pas vraiment considérée fondamentalement, et l'agriculture, le gouvernement n'a pas encore, n'est vraiment pas encore de manière franche, parce que la façon dont c'est organisé, non, ça ne peut pas permettre à une agriculture de décoller. Sur le plan de la corruption, de ce côté-là aussi, j'ai dit qu'il n'y a pas de réponses qui sont faites parce qu'il y a notamment la douane au niveau des Kasumbalesa ça, où la corruption continue un peu comme avant. On va encore appeler le gouverneur à s'intéresser aussi. De ce côté-là.
Merci beaucoup, Victor. Je rappelle que vous vous appelez de Lubumbashi. Pour vous, vous estimez qu'on n'a pas encore bien préparé dans cette province l'après-mine, parce que nous savons que les mines, c'est une ressource qui est épuisable. Il faudrait plus donner du tonus pour l'agriculture et lutter contre la corruption, mais néanmoins, vous reconnaissez qu'il y a vraiment des efforts sur le plan infrastructurel dans la ville de Lubumbashi. Merci Victor pour votre participation.
Parole aux auditeurs.
Et nous allons donner la parole à M. Christian Mwando. Je rappelle que c'est le ministre provincial en charge des finances et de l'économie. M. Mwando, vous avez suivi les interventions de nos auditeurs. On a l'impression qu'il y a une différence entre ce qui est fait à Lubumbashi, dans le chef-lieu même de la province, et ce qui se passe dans les territoires qui sont un peu éloignés de la province. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi il y a cette différence?
Merci, madame, pour la parole. Je pense qu'il n'y a pas de différence comme telle. Vous avez suivi l'éditeur de Lubumbashi, celui de Kongolo, celui de Lubumbashi. Je pense que globalement, le bilan du gouvernement provincial est un bilan positif. Mais vous voyez, face à l'ampleur du défi, le pays a connu énormément de retards et les attentes de la population sont très grandes. D'aucuns ont soulevé ici que les moyens financiers au niveau de la province n'ont pas vraiment suffi, parce que par rapport aux 40% attendus, nous ne les avons pas reçus. Mais cependant, le gouvernement provincial a fait des efforts pour renverser la vapeur. Je voudrais revenir notamment, par exemple, sur M. Viévin qui a parlé de Congolo. En ce qui concerne les infrastructures, je pense que c'est le premier gouvernement au jour d'aujourd'hui qui, dans toutes les provinces, dans tous les territoires, est en train de réhabiliter les infrastructures. Je pense que M. Viévin de Congolo lui-même a reconnu que nous avons fait des appuis sur le plan scolaire. Nous sommes en train de finaliser la construction des écoles équipes dans tous les territoires. Nous allons envoyer dans tous les territoires les moyens de transport pour faciliter le transport au niveau des paysans. Nous avons envoyé dans tous les territoires des véhicules pour les administrateurs des territoires pour renforcer l'autorité de l'État. Nous sommes en train de donner dans chaque chefferie, je dis bien, et les chefs coutumiers sont en train de m'entendre quand je parle, dans chaque chefferie, nous envoyons la rétrocession chaque mois pour permettre aux gens de se prendre en charge par la base. Donc, il n'y a aucun coin de notre pays qui est abandonné. Je parle de monsieur de Lumbala de Tikashi qui a parlé notamment de quelques réhabilitations au niveau des avenues. Il a quand même reconnu qu'il y a des avenues qui sont réhabilitées. Mais monsieur Lumbala ne doit pas se limiter au niveau des avenues qui sont réhabilitées. Il doit parler du problème de l'électricité. Et il doit parler du problème de l'eau. Nous avions trouvé, quand nous sommes entrés au gouvernement, pratiquement une épidémie de choléra dans la ville de Tikashi, faute d'adduction d'eau. Et nous avons fait le renforcement de la capacité de production d'eau potable de la station de captage de Tanda. Nous avons fait le renforcement de la capacité de pompage aux stations de Tantenga de Luambo pour le forage, par le forage de Puy. Nous avons donc éradiqué pratiquement le choléra dans la ville de Tikashi. C'est une question de priorité. Il a reconnu notamment que dans la ville de Tikashi, nous avons réhabilité l'une des plus grandes écoles qui existait dans la ville de Tikashi. Nous voyons, madame, que dans la province de Katara, nous avons pris en charge presque 50% des frais de chicanes de pain pour les enfants de notre province, pour aider les parents qui souffrent l'intérieur de notre
province. Est-ce que vous avez fait, par exemple, pour ces enfants, ces élèves des finalistes pour qui devaient passer l'examen d'État, est-ce que c'était le gouvernement qui l'a fait ou bien c'était un don du peuple? Parce que là, on a l'impression, parce que c'est sur un budget qu'on exécute, et le budget, ce sont les contribuables qui permettent à ce que le budget puisse fonctionner. Est-ce que là, vous allez dire que vous avez fait une aide ou bien ça faisait partie du budget?
Ça fait partie du budget de la province. Nous avions provoqué un budget dans le sens d'assistance des parents. Nous avons fait, dans l'assistance des parents, il y a ce que nous avons pris en charge.
À ce moment, c'est le plus
important. Bien que dérisoire. Nous avons pris également en charge au niveau de la budget de la province à peu près 50% des frais des examens d'État de tous les enfants de la province du Katanga. Ça, ce sont pour soulager, parce que nous avons une vision en ce qui concerne le désir des enfants.
S'il vous plaît, monsieur le ministre, à ce moment-là, ce n'est plus une assistance parce que l'argent provient des contribuables et que c'était dans le budget. Ce n'est plus une assistance. Vous n'exécutez que le budget qui a été voté par le Parlement, ce n'est plus une assistance.
Attendez, à partir du moment où, par exemple, le gouvernement décide de la gratuité, par exemple, et de l'enseignement. Et que cela est pris en charge dans le, dans, dans, dans le budget de la province ou de la nation. Est-ce qu'on n'allège pas la souffrance ou les difficultés de parents?
Vous n'avez fait qu'exécuter un projet, un budget qui a été voté
par les gens. C'est un budget qui soulage la population.
Ce n'est pas,
un budget qui alourdit. Donc, c'est pas. Nous sommes. Je suis en train de vous parler des actes concrets qui permettent l'avancée positive du social au niveau de la province. Je pense que vous venez quand même pas me dire que ça, ce n'est pas un acte positif dans le sens du social au niveau de la province.
Alors,
j'étais en train de dire parmi autant d'autres actes que nous sommes en train de poser pour vous dire que c'est l'ensemble de la province qui est considéré. Vous allez voir notamment également que, par exemple, M. Victor parle de la politique au niveau de l'agriculture. Vous savez que, avec les efforts que nous avons faits au niveau du gouvernement provincial pour la relance de la culture de maïs, parce que vous savez que le maïs, c'est principalement consommé dans la province du Katanga, normalement, vers le mois de mai, à partir de février, le maïs au niveau du Katanga passait à un prix de 1 200 $ la tonne. Mais oui, cette année-ci, avec les efforts qui ont été faits sur le plan agricole, notamment les efforts qui ont été faits par les sociétés minières en qui nous avons imposé de faire semer 500 hectares par société, nous sommes arrivés à maintenir les prix à 350 $ sur pratiquement l'ensemble de l'année, la stabilité du prix du maïs. Ce qui soulage quand même les populations au niveau du prix.
Monsieur le ministre, revenons aussi à cet avis de Victor. Il pense qu'il n'y a pas suffisamment de travail qui est fait dans la lutte contre la corruption. Nous savons que le Katanga, c'est une région qui est minière et qui a une frontière, des frontières avec la Zambie. Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre la corruption et surtout la contrebande?
Oui, bon, vous savez que le problème de la corruption et de la contrebande, c'est un problème qui ne concerne pas seulement le Katanga, mais c'est un problème global. Vous avez suivi vous-même que le président de la République lui-même a déclenché la campagne tolérance zéro au niveau de la province du Katanga. Nous avons constitué un service de lutte contre la fraude qui est le COSEFCAT, qui a déjà fait ses preuves, qui a fait, parce que nous faisons des contre-vérifications à un certain moment lorsque les produits passent, qui nous ont permis de faire quelques arrestations, notamment pour les gens. Nous avons éradiqué le phénomène qu'on appelait ici, au niveau de l'obligation, nous avons pratiquement éradiqué le phénomène du Zanga, où les véhicules passaient à travers champs pour entrer au niveau de la province. Mais ce sont des efforts conjugués que nous devons faire ensemble. Nous savons que la tâche, nous n'allons pas dire aujourd'hui que nous allons éradiquer la fraude demain ou après-demain. Il y a des effets d'entraînement. Il est nécessaire, justement, qu'il y ait dans le service public en général, pas seulement à la DGVA, à la DGRAD, même dans nos propres services, qui est une opération même propre qui devrait permettre quand même de couper le mauvais grain. Mais cela doit être accompagné, doit être couplé avec une amélioration des conditions de vie de nos agents, de la DGVA et autres.
Monsieur le ministre,
nous devons le coupler pour avoir un résultat efficace.
Monsieur le ministre, nous allons suivre une deuxième série d'auditeurs qui vont s'exprimer ils vont donner leur avis sur le fonctionnement des institutions dans leur province. Nous avons déjà Christian qui est à Kamina, qui nous appelle de Kamina, et Philippe de Kolwezi. Nous allons aussi lire des messages de Soussou Mutombo de Lubumbashi, ainsi que le message de Cyril Loupouéboué.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Christian. Christian?
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes à Kamina. Juste à côté de vous, on entend un bruit. Et on a l'impression que vous êtes dans un endroit où on est en train de battre un peu du fer. Est-ce que vous pouvez un peu vous déplacer un tout petit peu? Nous allons revenir à vous, Christian, le temps d'écouter Philippe. Christian, vous restez en ligne, mais déplacez-vous. Nous prenons Philippe de Kolwezi. Bonjour, Philippe.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Nous vous écoutons.
Oui, je voudrais tout simplement dire aussi que, d'une manière générale,
le fonctionnement ou les images du fonctionnement de l'Assemblée provinciale est vraiment négatif. Pourquoi? Parce que pendant les vacances parlementaires, il n'y a pas un contact permanent entre les députés provinciaux et la population de Colombie. Et certains députés provinciaux sont focalisés dans leurs propres activités. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, je voudrais aussi dire, ou plutôt au niveau du gouvernement provincial, je voudrais aussi dire que le bilan n'est pas tout à fait positif. Pourquoi je dis cela? C'est suite aux différents problèmes que continue à faire face la population de Colombie. Il y a le problème de la desserte en eau potable et du courant électrique.
Oui.
Au moment où je suis en train de vous parler, la ville de Colombie est soumise à un délectage général. Et il suffit seulement de se lever à 4 heures du matin, peut-être pour avoir 20 ou 40 litres d'eau, hein, ce qui n'a pas vraiment changé les vécus quotidiens de la population. Et sur le plan social, il y a aussi des problèmes. La population n'a pas accès à l'emploi. Et si elle a accès à l'emploi, c'est peut-être pour avoir 50 000 francs à la fin du mois. Hein, c'est question de passer dans différents magasins sur place, les travailleurs sont mal payés. Il y a le problème aussi d'infrastructure. Ça fait 2 ans qu'on a lancé les travaux ici à Colombie, mais les travaux ne sont pas vraiment de bonne qualité. Il y a une entreprise qui travaille sur les routes et chaque fois la population se plaint sur la qualité des travaux hein, qui sont effectués sur certaines routes ici à Colombie. Malgré ce que nous puissions aussi encourager les quelques œuvres que le gouvernement provincial a exécutées ici à Colombie. Il y a par exemple le stade Diouf qui est en pleine réhabilitation. Il y a certaines écoles qui ont été réhabilitées et même équipées en bancs, et même certains auditoires des universités et instituts supérieurs ici à Colombie ont été équipés. Voilà un gros problème dans la population de Colombie.
Merci beaucoup, Philippe. Pour vous, il faudrait améliorer l'accès à l'eau, à l'électricité, mais aussi l'accès à l'emploi. Et voir dans quelle mesure il puisse y avoir des entreprises qui fassent très bien leur travail du côté des infrastructures. Nous revenons à Christian qui se trouve à Camina. J'espère que là, il y a moins de bruit autour de lui. Christian, vous nous écoutez?
Oui, je vous écoute, madame.
Essayez d'éteindre votre poste récepteur, la radio qui est à côté de vous. Là, nous pourrons bien vous écouter parce qu'il y a un retour perpétuel et là, ce n'est pas bon pour nous. Christian, essayez de vous mettre dans les normes pour qu'on puisse bien vous écouter. Je veux lire d'abord le message de Soussou Moussombo, le temps que vous puissiez vous mettre à un endroit assez calme parce que sinon, ce sera difficile pour nous de pouvoir vous suivre. Même l'invité aura des difficultés de pouvoir réagir face à vos propos s'il n'arrive pas à écouter ce que vous voulez lui dire. Je lis le message de Soussou Moussombo. Elle dit qu'elle réside dans un quartier qui se nomme Golf Météo à Lubumbashi. Elle dit que le tronçon de la route Manoa-Golf reste en chantier. Cela fait 3 ans. Nous buvons l'eau des puits, non assainie. Aucun programme de forage des puits. Aucun programme d'électrification, la route est poussiéreuse comme dans une mine. Voilà ce que nous écrit Soussou Moutombo, elle nous écrit à partir de Lubumbashi. Nous revenons cette fois-là encore une fois à Christian, j'espère que cette fois-là ça va mieux. En tout cas, sa qualité de la liaison ne s'est pas du tout améliorée. Nous prenons Joël, qui se trouve à Petit Poussy, bonjour.
Bonjour madame Marie-Chantal.
Nous vous écoutons Joël.
Merci de m'avoir accordé la parole madame. D'une façon générale, nous pouvons dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est fait depuis 2006, mais qui est en dessous de la moyenne, madame. Nous remarquons que ces derniers temps, nous voyons les engins pour la réhabilitation des routes et les autres. Mais ce qui se vit, c'est tout à fait le contraire, madame. Parce que comme moi, je suis présentant à Kipouchi, pour aller à Lubumbashi, mais il faut voir la route dans quel état ça se trouve. Et quand on dit qu'on a réhabilité seulement la ville de Lubumbashi, ça c'est vrai. Et je pense que quand on réhabilite ça, c'est pour permettre aux politiques du Katanga de bien marcher avec les véhicules qui ont acheté le bilan toutes ces années ici. Il faut réhabiliter aussi les milliers étudiés. La province du Katanga, ce n'est pas seulement Lubumbashi. Il faut descendre aussi dans les territoires, aller aussi dans le nord, là-bas, comme à Misawa.
Merci beaucoup, Joël. Je rappelle que vous appelez de Kipushi. Pour vous, vous pensez qu'il y a deux poids, deux mesures, ça dépend du milieu. Notre invité a déjà tenté de répondre à cette question-là, mais pourra vous donner encore plus de précision. Nous prenons le message de Philippe, qui est à Kolwezi. Il nous écrit ceci: au Katanga, le bilan des institutions n'est pas positif. Cette situation s'explique par plusieurs problèmes que les habitants de certaines villes de la province font face. Par exemple, à Kolwezi, la desserte en eau potable et le courant électrique constitue un casse-tête pour la population. Rien que pour avoir de l'eau au robinet au quartier Biachara, il faut se lever à 14h du matin. Et sur les 7 jours de la semaine, certains quartiers bénéficient de seulement 3 à 4 jours de courant stable. Une grande partie de la cité Manika connaît le délestage depuis bientôt 3 ans. Nous avons un autre auditeur qui est au bout du fil, Jean Bosco. Il est dans la ville de Lubumbashi. Bonjour Jean Bosco.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de par le monde.
Nous vous écoutons.
Merci de la parole. Moi je voudrais juste dire que nous devons quand même saluer la volonté du gouvernement provincial à travers les œuvres qu'il est en train de réaliser ici au Katanga. Notre province est la plus grande de notre pays.
La
même étendue que la France. Je crois que dans 5 ans, qu'on a donné au gouvernement, c'est un peu difficile de donner le bilan exact de leurs travaux. Je crois qu'il faut encore leur laisser du temps pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont à réaliser. Qu'on salue leur volonté, parce que moi, depuis que je suis né, je n'avais jamais vécu un asphaltage d'une route. C'est ici, à Lubumbashi, que j'ai vu pour la première fois, parce que j'ai déjà une vingtaine d'années, et j'ai vu pour la première fois, on asphalte une route. Et je crois qu'il va falloir qu'on puisse quand même voir d'autres entités telles que l'emploi par exemple, parce que je me suis rendu compte que toutes les infrastructures routières auxquelles j'ai assisté, c'est beaucoup plus les cantonniers. Je ne vois pas des cadres universitaires de notre pays. Si on voit des cadres universitaires, ce sont des cadres qui sont étrangers, qui ne sont pas de notre pays. Alors je voudrais qu'on puisse aussi voir cet aspect-là des cadres universitaires de notre pays.
Merci beaucoup Jean Bosco, je rappelle que vous appelez de Lubumbashi. Nous allons redonner la parole à notre invité. Il s'agit de M. Christian Mwando, qui est ministre provincial en charge de l'économie et des finances.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Mwando, encore une fois, la deuxième série d'auditeurs, c'est plus axé sur l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'emploi. Que leur répondez-vous?
Je note cependant que tous les auditeurs qui sont passés ont reconnu que partout où ils sont, peut-être que les choses ne sont pas faites parfaitement, peut-être, mais on touche quand même à tous les coins de notre province. Je veux vous dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons évalué dans notre plan, plus ou moins, il faut pour faire repartir le Katanga, pour rebâtir le Katanga, il faut au moins plus ou moins 10 milliards de dollars américains. Au jour d'aujourd'hui, la province fait par an à peu près 300 millions de dollars. Vous comprenez un peu, ce qui veut dire que la tâche est immense et les moyens sont très limités. Je voudrais revenir un peu à M. Philippe de Kolwezi, qui a parlé des problèmes de desserte en eau et en électricité. Je pense que les gens ont tendance parfois à oublier que l'eau et l'électricité sont gérées par des sociétés d'État. C'est que c'est la province qui en a pris. Cependant, Les efforts ont été faits par le gouvernement provincial. Je pense que nous avons récemment d'ailleurs payé à peu près $650,000 à la régie des eaux pour le renforcement des capacités de pompage aux deux stations de relais de Moutouri. Et ça, je pense que l'auditeur peut le vérifier, parce que nous sommes conscients que la question de l'eau est une question importante pour la ville de Colombie. Également, au niveau de la ville de Colombie, pour ce qui est de la semaine, nous avons payé plus ou moins $700 à la semaine pour l'acquisition et l'installation d'un transformateur de 8 MVA au poste de Fongourou. Nous sommes dans un programme de plus ou moins $2,600,000 avec la semaine pour l'assainissement des réseaux. Et nous avons également la reprise des réseaux basse tension de 4 cabines pour une valeur de $200,000. Donc, ce problème, ce sont des problèmes réels qui ne concernent pas seulement le Cataract, qui concerne la province, qui concerne le pays, mais au niveau du Katanga, nous sommes conscients de toutes ces réalités et nous sommes en train de faire des efforts avec les moyens disponibles de manière à améliorer un temps soit peu la situation de l'eau.
À vous écouter, monsieur le ministre, nous sentons qu'il y a un programme et que vous allez étape par étape. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de communication entre vous et la population pour qu'ils puissent savoir qu'à telle date sera notre tour? Est-ce que vous communiquez votre chronogramme? C'est peut-être cela aussi l'un des problèmes, des difficultés pour que la population
reconnaisse. Peut-être qu'on va avoir raison, peut-être qu'il y a un déficit de communication, mais le programme que nous avons est un programme bien clair et qui file effectivement l'amélioration de la desserte en eau et en électricité dans les principaux points de notre province. Nous avons, je ne vais pas vous parler, notamment par exemple pour l'Italie également, l'acquisition des transformateurs, de l'installation des transformateurs de 8 MVA au poste de Chitourou, pour une valeur de $3,500,000. Donc nous sommes en train de faire quelque chose. C'est vrai que l'impatience de la population est compréhensible parce que les gens voient des choses venir, mais ça se fait trop lentement. Mais cela est lié à la disponibilité et l'utilité des moyens. Mais la bonne volonté, je pense que tous les auditeurs qui sont passés ont reconnu que la bonne volonté du gouvernement provincial est là. L'auditeur qui est M. Joël de Kipouchi, qui a parlé, effectivement, il y a vu des gens en train de travailler sur la route Kipouchi. C'est un programme. Nous venons de quitter la saison sèche, la saison des pluies, nous entrons en saison sèche. Les travaux, surtout en matière routière, vont pouvoir être accélérés avec l'arrivée de la saison sèche. Je parle également pour répondre à Mutombo, si tu parles de la route Nouma-Golf. La route Nouma-Golf, je pense que soyons honnêtes, que cette route qui était en terre, nous avons déjà fait plus ou moins 2 km d'asphaltage sur cette route que les travaux continuent. Et ce programme est en cours de réalisation, reconnaissant. Je sais qu'il y a l'impatience de la population, il y a l'impatience des gens. Nous avons des moyens limités, nous essayons de faire des efforts. Pour les autres qui parlent, je pense que nous devons aussi reconnaître et nous prenons acte de ce qui n'a pas été fait et nous allons essayer au fur et à mesure d'améliorer, de nous battre ensemble. Nous devons être persuadés que la bonne volonté, ce que je retiens de positif, c'est que tout le monde reconnaît la bonne volonté du gouvernement provincial de pouvoir aller.
Et revenons à l'accès à l'emploi, parce qu'ils estiment que la plupart des travaux via l'emploi qui a été offert, c'est plus pour la classe ouvrière. Que pensez-vous faire concernant l'accès à l'emploi pour les universitaires ou bien d'autres cadres qui sont spécialisés?
Oui, l'aspect emploi est un aspect très important et je remercie le gouvernement d'en parler parce que, effectivement, nous pensons que le prochain mandat du président de la République doit être axé sur l'emploi. Au niveau de la province du Katanga, nous avons pris un outil pour la sous-traitance, par exemple, obligatoire par les sociétés minières des sociétés congolaises, des sociétés locales. Parce qu'effectivement, nous avons constaté que la plupart des sociétés minières qui sont dirigées généralement par les étrangers ont tendance à prendre et à engager uniquement des sociétés étrangères. Et pour cela, il nous faut encourager la sous-traitance locale pour encourager le développement de cette classe moyenne. Mais c'est un processus. Je pense que mon collègue qui est en charge de l'industrie et des PME est en train de faire un effort au niveau des entreprises, surtout minières, pour voir quel est le taux d'utilisation des cadres congolais. Et nous devons le corriger, c'est vrai. J'ai dit toute une politique qui va demander un peu de temps, mais nous prenons bon note de cette observation et nous allons nous y atteler pour que les universitaires, les cadres congolais, les trouvent.
Et qu'est-ce qui se fait actuellement pour permettre une innovation, la créativité surtout, parce que souvent on dit que le climat des affaires en RDC n'est pas propice dans le plan, sur le plan financier, la fiscalité. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir promouvoir ces petites entreprises qui peuvent mettre surtout des innovations, de la créativité de la population du Katanga?
Au niveau des PME, par exemple, des petites et moyennes entreprises, nous avons remarqué qu'au niveau du Katanga, il y a des choses. C'est le problème du financement et le problème d'expertise. Le problème de financement est un problème récurrent qui est dû au fait que beaucoup d'entrepreneurs congolais ont des idées mais n'ont pas d'argent. Et lorsqu'ils s'adressent au système bancaire, le système bancaire leur demande des garanties qu'ils sont incapables de réunir. Au niveau du gouvernement provincial, nous avons débattu de manière à pouvoir réfléchir, le gouvernement avait changé de ce travail-là, sur une caisse de cautionnement. C'est-à-dire, le gouvernement provincial est en train de finaliser un projet pour se porter caution, de sorte que lorsque les gens présentent au niveau des banques, des Congolais présentent des projets bancables, que le gouvernement puisse leur apporter la caution de manière à ce qu'ils puissent acquérir des financements. Au niveau de l'expertise, je pense que les PME, la COPEMECO, la FENAPEC sont témoins que ça fait 2 ans de suite que le gouvernement provincial, sous mon égide d'ailleurs, avec l'appui et le soutien du gouverneur Moïse Katumbi, nous avons organisé la formation sur la gestion au niveau des opérateurs du réseau dans ce pays. Et nous allons poursuivre cette formation. Il y a également le problème de la réorientation au niveau de la formation des jeunes. Nous sommes dans un programme avec la Banque mondiale pour réorienter, avoir des filières porteuses au niveau de nos universités et pouvoir appuyer la formation des jeunes dans les métiers de pointe qui sont demandés au niveau notamment des sociétés minières. Donc c'est toute une politique qui est une politique de ce qu'on appelle des politiques à moyen terme. Dans le court terme, on ne peut pas corriger immédiatement les choses, mais ça fait la préoccupation de notre gouvernement et nous sommes en train de travailler là-dessus afin de trouver des solutions durables.
Monsieur le ministre, nous allons suivre une troisième série d'auditeurs. Nous avons déjà Thierry de Kambok et Seco de Lumbashi que nous avons pu recontacter. Mais aussi, nous allons lire le message de Cyril Loubetoué, qui nous écrit à partir de la cité de Luena. Nous allons les suivre tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Thierry.
Bonjour madame.
De Kambove, nous vous écoutons.
Oui, c'est Thierry Moukéléché à partir du territoire de Kambo. De toutes les façons, nous sommes le deuxième territoire de la RDC en termes de grandeur. Alors j'apprécie d'abord, monsieur le ministre, d'être honnête au moins à 70%, et j'apprécie tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, moi je vais y aller sur 2 volets, parce qu'il a reconnu le déficit communicationnel. Bien entendu. D'abord, nous sommes une radio communautaire. Monsieur le ministre se souviendra d'abord qu'il y a un sérieux problème en fait qui concerne les radios communautaires dans différents territoires. Ce qui fait que nous avons un problème de communication d'abord avec le gouvernement provincial. Même au niveau des assemblées, de l'Assemblée provinciale, on n'arrive toujours pas à avoir et à savoir pour les communautés de notre territoire, et même des territoires avoisinants tels que le Bouzi et Kasenga, comment communiquer avec les autorités qui siègent à Lubumbashi à l'Assemblée et qui pressent au niveau du gouvernement provincial. Ici à Kambove, nous avons aussi le problème d'infrastructure. Depuis 4 ans, nous n'avons pas vu vraiment cet engouement tel que nous voyons un peu ici à Nicassi, soit que c'est vers les 30%, 40%. Mais ici à Cambodge, nous sommes le territoire qui fournit d'ailleurs beaucoup en ce qui concerne les minerais. Nous avons autant de carrières que je ne saurais pas énumérer si je ne citerais que Camp Fondoy, Kassibisi, Milé et autres carrières. Ce qui fait que le gouvernement provincial a justement là un problème entre Lubumbashi et Cambodge. Il y a là les autorités qui se déplacent d'abord difficilement, et même les députés qui ne viennent presque pas. Nous avons un problème du fichier électoral. Moi qui vous parle en 2006, c'est moi qui ai animé les émissions de sensibilisation pour la constitution de la République et ainsi que la campagne des fichiers électoraux de 2006. En 2009, disons en 2011, notre radio a des problèmes d'émettre. Nous ne mettons pas plus loin que dans la cité de Chamitoumba où nous sommes en train de, disons, où notre radio est en train de naître. C'est que le gouvernement devra se rappeler de doter dans les territoires un moyen de communication. Si la radio au Kati, nous, on ne la capte pas ici, c'est-à-dire que beaucoup de Congolais vivant dans le territoire de Cambodge souffriraient en ce qui concerne les informations, tant au niveau de la province qu'au niveau du pays. Ce que nous demandons au gouvernement provincial en ce qui concerne Cambodge, il y a le problème récurrent des hôpitaux. Et même nous n'avons pas les frigos mortuaires. Ça fait tout un problème pour enterrer les morts ici à Cambodge. Ça dit que le gouvernement doit renforcer, doit se souvenir. Certes, c'est 22 territoires, c'est plusieurs territoires, mais dans le système de décentralisation, tel que le ministre l'a dit à un moment donné, ils doivent faire la vérification du comportement de là où ils envoient l'argent pour que les populations, au moins, par rapport à leurs attentes, rentrent dans ce que le gouvernement provincial a appelé plan triennal de développement.
Merci beaucoup.
Je termine. Mm-hmm. Les réalisations, c'est sans sentir. Mais les attentes des populations, ils n'atteignent pas. Peut-être à 20% qu'on atteint ce que les populations veulent, madame.
Merci beaucoup, Thierry de Cambodge. En gros, l'accès aux sources d'information, voir dans quelle mesure le gouvernement puisse effectivement mener un contrôle, un suivi dans l'exécution de leur programme. Nous vous remercions, Thierry, et nous donnons la parole à Efeko et à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que cette fois-là, ça passe mieux. Efeko, nous vous écoutons.
Bon, merci beaucoup, Radio Kapi, de m'avoir accordé la parole. Je dirais, moi, ici, que Moïse Katumbi et son gouvernement, ce sont des magiciens. Je dis à Lubumbashi, c'est la ville qui m'a vu grandir. En tout cas, les réalisations sont nombreuses. Ici, j'aimerais d'abord parler de l'Institut Kiwele. Madame, je peux vous dire, il fut un temps, une Belge était venue au Congo en visite à cet institut. Elle a fondu en larmes. Pourquoi? Parce que cet institut était dans un état de délabrement terrible. Mais grâce à Moïse Katumbi Tshabwe, cette école est en train de revêtir, donc elle fait pour nous. En tout cas, nous devons féliciter. C'est d'ailleurs une surprise. Nous ne pensions jamais que cette école pouvait être réhabilitée. Maintenant, moi, je vous dis que les réalisations, elles sont nombreuses. Je suis ici à Lubumbashi, mais juste tout simplement une petite question à poser au ministre.
Mmh.
Quel est leur critère des désignations ou des choix des routes asphaltées dans la ville de Lubumbashi? Comment une avenue comme Lunda à la Kamalondo, qui n'est pas fréquentée par les bus de transport en commun, est asphaltée? Pendant que l'avenue Sapinière, qui est une avenue principale, n'est pas asphaltée. Pendant que les gens prennent les bus Dubaï et les bus de transport en commun, ils voient en ville sur une route pratiquement où il y a des nids de poules et des bains de cochons, sur la route Lunda, il n'y a pas de bus qui passe, mais cette route-là, elle est asphaltée. Mm-hmm. Moi, je voudrais savoir quel est leur critère. Mm-hmm. Parce que nous, nous considérons que ils réhabilitent les routes de la Kamalondo parce qu'il y a le stade de Moïse là-bas. Ils ont réhabilité plus les routes de la Kenya parce qu'à la Kenya, Moïse, Joseph Kabila avait beaucoup de voix. Mais là, ici, dans notre quartier, on dit que peut-être parce qu'on a plus voté Mbemba, que notre route qui est principale, je vous dis, les bus de transport en commun fréquentent. Une fois, je me suis retrouvé à la Kamalondo sur une avenue bien asphaltée par le gouvernement provincial vers 19h. Je comptais quelques voitures qui passaient. Ce sont des voitures de particuliers. Pendant ce temps-là, sur notre avenue vers 19h30, ce sont des bus qui défilent avec des gens. Les pauvres, ils ont 200 francs pour aller en ville.
Merci beaucoup. Je sais qu'on a compris votre préoccupation, c'est de savoir quel est le critère de choix dans la réhabilitation des routes. Nous vous remercions.
Et aussi, nous leur demandons quand même de penser à nous, hein, avant la fin de ces mandats, sinon nous n'allons pas voter pour eux.
Merci beaucoup, Cheko, pour votre participation. Nous avons un message de Cyril Loupemboué. Il nous écrit à partir de la cité de Luena, dans le territoire de Bukama. Il écrit ceci: il est constaté que toutes les actions et réalisations sont concentrées au sud du Katanga, alors que le nord Katanga se trouve jusqu'à aujourd'hui enclavé. Donc, pour notre part, ces institutions n'ont pas pu fonctionner conformément aux attentes de la population en général et particulièrement aux attentes de la population du nord Katanga. Plus. Les infrastructures routières, la route nationale numéro 1, Lubumbashi, Kamina, Kasai, impraticables, beaucoup de ponts écroulés, notamment sur la rivière Kaloulé Nord, des grands nids de poules partout, aucune route d'intérêt local n'est réhabilitée au nord, infrastructures sanitaires, certaines zones de santé sans hôpital depuis presque 10 ans, environnement et conservation de la nature, les lacs et parcs. Et le parc national de Lupemba se vide de leurs espèces du jour, chaque jour, sous les yeux du gouvernement provincial et surtout du ministre provincial de l'Environnement. Voilà ce que nous a écrit Cyril de la cité de Luena.
Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, quelle est la parole et nous vous écoutons.
Juste avant de remettre la parole à M. Christian Mwando, qui est notre invité, le ministre provincial en charge des finances et de l'économie, prenons d'abord Alfred en une minute, qui peut nous expliquer ce qu'il pense du fonctionnement des institutions provinciales. Alfred, je vous écoute.
Oui, madame, bonjour, bonjour à tous les auditeurs. En ce qui concerne l'exécutif provincial, vous avez constaté vraiment, à mon appréciation, ça va quand même, puisque certaines actions ont été menées par le gouvernement provincial. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la gestion, il y a un point très important, madame, c'est le contrôle plutôt. Le contrôle dans la gestion, ça permet à évaluer les actions posées. Mm-hmm. Alors le contrôle se fait par l'organe délibérant de la province, mm-hmm, qui est le Parlement provincial. À ce côté-là, le gouvernement pouvait faire même plus si le Parlement provincial avait vraiment tenu le contrôle sur l'exécutif. Parce qu'il y a beaucoup de points que les députés avaient soulevés jusqu'aujourd'hui, ces points n'ont jamais été vraiment contrôlés. Je donne l'exemple. Par exemple, le ministère des Finances, comme l'invité lui-même est là, il va répondre. Combien de fois le ministère des Finances a été contrôlé par l'organe délibérant de la province qui est le Parlement provincial?
Alfred, nous vous écoutons. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment un contrôle par l'Assemblée provinciale, mais vous, en tant qu'électeur, vous, en tant que population, c'est vous qui avez élu. Qu'est-ce que vous faites pour que vos représentants puissent faire pression sur l'exécutif?
Ah oui, justement, nous constatons les actions qui sont posées par les membres de l'exécutif, par le gouvernement. Nous constatons aussi les actions qui n'ont pas été menées de la part des députés, puisqu'ils n'ont pas rempli bien leur mission. Nous allons les sanctionner seulement au sujet, madame.
Merci beaucoup, Alfred, pour votre intervention, parce que bientôt là, nous allons avoir notre bulletin d'information qui va intervenir dans moins de deux minutes. Mais nous avons une seconde partie de l'émission. Nous aurons encore 15 minutes ensemble d'échanges concernant le fonctionnement des institutions provinciales du Katanga. Monsieur le ministre, on voulait quand même répondre à notre auditeur qui a posé la question sur le critère, comment vous arrivez à faire des choix dans la réhabilitation des routes à Lubumbashi.
Oui, madame, je voudrais apaiser notre auditeur parce que la province a décidé de réhabiliter, en tout cas au niveau de la ville de Lubumbashi, l'ensemble des routes passagées. Cependant, pour ce qui est de sa route, je crois qu'il y a eu un malentendu, la route Saint-Pierre. Nous avions signé, nous avions un accord avec une société minière qui habite dans les environs de cette route, qui nous avait promis de réhabiliter cette route contrainte ses engins et ses camions. Mais cette société, nous avons constaté qu'elle a été en défaillance pour le faire. Je crois que, au moins, le gouvernement de Forage lui a adressé un ultimatum. Si d'ici un mois, je crois que si ce n'est pas fait, la province a pris toutes les dispositions pour pouvoir terminer ce problème. Donc,
Monsieur le ministre, parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, telle est la parole et nous vous écoutons. Et aujourd'hui, c'est la province du Katanga qui est à l'honneur. Cette émission spéciale sur le fonctionnement des institutions provinciales de la province du Katanga. Et nous avons invité pour vous Monsieur Christian Mwando, qui est ministre en charge de l'économie et des finances. Déjà là, avant ce bulletin d'information que vous venez de suivre, il est en train de nous expliquer comment est-ce que le gouvernement provincial est en train de voir dans quelle mesure réhabiliter certains tronçons routiers, parce que les auditeurs ont constaté que souvent ce sont les tronçons routiers qui sont les moins fréquentés, qui sont réhabilités en défaveur de ceux où ils pensent, ils estiment que ça devait commencer par là. Monsieur le ministre provincial, vous étiez en train de répondre à la préoccupation de notre auditeur concernant vos critères de choix et vous avez signalé qu'effectivement la route qu'il voulait qu'on puisse réaménager est dans le programme et d'ici un mois, si la route n'est pas réhabilitée, vous allez prendre des décisions pour qu'une autre entreprise peut-être puisse le faire. Mais que dites-vous à Thierry de Cambo qui estime qu'effectivement il y a un déficit de communication et qu'est-ce que vous allez faire pour qu'en fait tous les auditeurs puissent avoir accès à l'information, ce qui est un droit constitutionnel? Monsieur Christian Mwando? Nous avons perdu notre invité, le temps d'écouter d'autres auditeurs qui sont au bout du fil. Et puis nous allons revenir à notre invité. La réalisation est en train de se démener pour pouvoir le recontacter parce que là, on a eu une interruption. Prenons d'abord Ilunga de Kamina. Bonjour Ilunga.
Bonjour.
Oui, nous vous écoutons Ilunga.
Merci pour m'avoir accordé la parole. Moi, je voudrais vous dire que pour moi, le bilan est beaucoup plus mitigé. Au sens que je suis à Kamina et je suis un habitant de Kamina. Et si je vais vous dire Kamina, c'est le chef-lieu du district du Olomanu, qui est un grand district qui est dans le Katanga. Allez, que je vous parle, je vous dis que Kamina est coupé au reste de la province. Donc, c'est une ville qui est enclavée vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Et depuis lors que on a vu un certain moment, on avait envoyé les enjeux de refit de route pour réhabiliter des routes. Ça fait déjà deux ans ou trois ans qu'ils sont en train de s'amuser, ils ont fait qu'il y ait peut-être 80 km de latérite. Ça, c'est d'abord au niveau des routes. Et je suis à Kamina, je vous dis que c'est déplorable, on n'en prend pas de l'eau. Et heureusement pour nous qu'il y avait une société qui existait, la brasserie, qui avait fermé, c'est peut-être, donc on est en train d'utiliser, la régie des eaux utilise le puits de la brasserie pour ravitailler donc la population camionnaise. Et c'est une petite portion de la population juste en ville. Sans la brasserie, à Kamina, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Autre problème, les opérateurs économiques de Kamina, donc l'Afrique, a fait de ses efforts, peut-être pour désenclaver donc, la ville de Kamina, même sur le plan aérien. Ils sont partis contacter l'ACA. Ils ont mené des démarches. Les démarches étaient bien parties jusqu'à terme. Mais quand on voulait organiser le premier vol en direction de Kamina, il y a eu, je ne sais pas qui ont contrecarré, il y a eu trop de conditions. Je ne sais pas pour dire que non, Kamina, c'est une zone opérationnelle. Mais moi, quand je vois qu'il y a ça, il y a une partie de l'avion civil et l'avion militaire. Et ça aussi était une zone opérationnelle. Goma était une zone opérationnelle, les avions atterrissent. Pourquoi pas seulement à la Kamina, on refuse que les réguliers CA atterrissent. Ça, c'est un problème.
Donc,
le problème de...
Oui.
On a tenté de réhabiliter les écoles, juste peut-être des écoles de l'État. Mais ce que nous on souhaiterait aujourd'hui voir, c'est que l'État construise des écoles. Mm-hmm. Ce qui va faire que on peut au moins décharger les parents qui se sont chargés d'une charge là de la scolarisation peut-être pendant 10 ans. Ça,
oui,
c'est un problème.
Et
nous avons un autre problème.
C'est vrai qu'on ne pourra pas énumérer tous les problèmes parce que les éditeurs sont nombreux à vouloir participer à cette émission. Mais en gros, votre problème, c'est de voir Kamina désenclavée. C'est ça votre préoccupation. Nous avons un dernier auditeur. Il s'agit de Kenge. Bonjour, plutôt c'est King. Bonjour, King.
Allô, bonjour. C'est pas Kenge, c'est Alfred, madame.
Pardon?
C'est Alfred, madame.
Moi-même, j'arrive pas très bien à vous suivre. Mais dites-nous un peu, vous appelez de quelle ville?
Oui, je vous appelle à partir de Lubumbashi.
Oui, de Lubumbashi. En une minute, parce que vous êtes le dernier auditeur de cette émission, et je rappelle à nos auditeurs, je signale à nos auditeurs que nous avons pu recontacter notre invité. Il va intervenir d'un moment à l'autre pour la conclusion qui répondra à quelques préoccupations des auditeurs. Vous avez une minute pour vous exprimer.
Oui, je dirais que si les résultats donc de la gestion de la santé, le territoire provincial est mitigé, madame.
Mm-hmm.
Il y a certaines actions qui ont été réalisées, il y a d'autres qui n'ont pas été réalisées. Puisque vous savez que avec les moyens aussi, les actions ne peuvent être accomplies et réalisées avec les moyens.
Oui. Donc à votre avis, il faut plus de moyens pour pouvoir réaliser toutes ces actions. C'est voir dans quelle mesure la province peut générer davantage, mobiliser davantage de recettes pour exécuter le projet. Merci beaucoup pour votre intervention. Et nous revenons à notre invité, M. Christian Mando, ministre en charge de l'économie et des finances. Il y avait la préoccupation de notre auditeur concernant l'accès à l'information, Thierry de Kambov, qui se posait des questions. Quelle est votre politique en fait pour permettre à toutes ces populations d'être informées? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Oui, madame, je tiens d'abord à les remercier pour cette préoccupation. Il faut savoir, madame, qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement provincial du Katanga a doté tous les chefs-lieux de districts de chaînes de radio et télévision. Aujourd'hui, un programme est en cours d'exécution. Pardon?
Un programme
est en cours d'exécution dans tous les territoires. Je pense qu'on a déjà acquis au moins 8 stations de radio télévision en cours. Il reste d'autres territoires qui doivent, pour Mané Mangoulou, on a déjà dit, pour Kabongo, pour tout le Nord.
On peut savoir, ce sont des chaînes privées.
On va continuer avec le reste.
Ce sont des chaînes privées.
Pardon ?
Est-ce que ce sont des succursales de la RTNC, ces chaînes que vous venez de doter ?
Exactement, exactement. Ce sont des chaînes officielles, notamment d'ailleurs pour la RTNC Tatanga. Vous êtes au courant, je pense que nous avons renoncé complètement à la station et que nous continuons jusqu'aujourd'hui à la subventionner tous les mois et chaque année. Deuxième chose que je voulais dire, en ce qui concerne les critères de choix des routes, c'est un programme, madame. J'ai souligné, d'ailleurs, heureusement qu'on a eu cette pause, le contrat en cours que nous venons de signer avec Safipes. Il est prévu, si l'auditeur s'il est en ligne, il peut passer à mon cabinet, je peux lui lancer même une copie, que nous devons attaquer, maintenant avec le début de la saison sèche, les avenues du cimetière, l'avenue circulaire, l'avenue des Sapinières, c'est bien précisé. Tronçon compris entre l'avenue de Plaine 2 et le terminus Caléja, soit 939 mètres pour un coût de 1 049 000 $ américains. L'avenue de Plaine, également, que nous devons faire. Donc, c'est un programme que nous sommes en cours de réalisation et qu'il soit bien assuré que d'ici le mois d'août, septembre, sa route sera complètement réparée. Je voulais également parler de réalisation, parce que notre auditeur a parlé de la question de l'enclavement du Nord. Mm-hmm. Hein, en ce qui concerne le Nord de Paris, nous avons un programme de réhabilitation de la route provinciale 630, Kamina-Kabongo, dans le Haut-Lomami, pour une longueur de 172 km, et dont les travaux sont en cours d'exécution. Nous avons l'entretien également de la route Kamina-Kabongo-Kabongo-Vianda, d'une longueur de 48 km pour une valeur de $5 400 000, dont les travaux sont en cours d'exécution. Nous avons également la réhabilitation de la rade nationale numéro 1, Kamina Kanyama Pont Loubirachi, pour 240 km, dont les travaux sont en réalisation. Pour l'homme de l'UENA, je sais que la route du Nord, Louvain-Vilaine, a été à pied. Nous avons déjà commandé exécuter les travaux topographiques et nous avons déjà commandé un pont balai pour désenclaver cette partie pour une valeur de $1 million.
S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît, vraiment, nous nous excusons. Comme je l'avais dit tantôt, nous sentons qu'il y a un programme qui est déjà qui est en pleine réalisation et les auditeurs ont manifesté le fait qu'ils ne sont pas vraiment informés de ce qui est projeté dans leur territoire ou dans leur milieu. C'est peut-être ça qui manque. Mais en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons vraiment merci, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir en une phrase?
Ce qu'on pourrait dire, madame, c'est que nous sommes conscients des difficultés énormes que rencontrent nos populations. Nous avons un programme en cours d'élaboration. Je vous ai dit en début d'émission, le Tatanga a besoin de $10 milliards pour terminer, sans faire les problèmes de population. Nous n'avons que 300 millions, mais nous sommes conscients de ces difficultés et nous allons y aller progressivement et chacun, je crois, au sein de notre population, trouvera son compte parce que nous demandons tout simplement à la population du Katanga, au nom du gouverneur de province, de continuer à nous faire confiance. Nous allons cheminer ensemble jusqu'à terminer tous les soucis qui nous ont exposés.
Merci beaucoup, Monsieur Christian Moineau, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes ministre provincial en charge des finances et de l'économie. Et nous disons merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis, soit connectés sur www.radiocapi.net ou en FM. Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, tenez la parole et nous vous écoutons.
Allô? Allô? Il ne répond pas?
Et le mercredi prochain, l'émission sera consacrée à la province de l'Équateur. Mais entre-temps, nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, le monde célèbre ce mercredi 11 mai, la journée de l'infirmier. La question qui va lancer l'émission de demain, que représente pour vous la fonction d'infirmier ? Et je suis déjà présent, nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Et je vous souhaite de rester branchés sur Radio Capi pour la suite de ce programme.